Partie 2, la chenille. Alors après avoir été une larve, après avoir emmagasiné plein d'informations, on va commencer à être la petite chenille qui va gentiment devenir un papillon et qui va gentiment se préparer d'abord. Alors, je veux à l'étape précédente parler de tout ce que t'es là. La spirale dynamique. Et puis maintenant, bah, j'aimerais exprimer un peu par rapport à moi, qu'est-ce que ça m'a apporté, comment j'ai vécu ces évolutions et comment j'en suis arrivé à écrire cet article, à avoir cette nouvelle vision du monde. Alors, j'espère que tu as pu te situer, tu as pu te dire je suis à telle ou telle étape. Moi, je suis plutôt orange, je suis plutôt vert, je suis plutôt jaune. Parce que là, je suis un peu embêté, parce que si j'aimerais faire un podcast qui est écouté par tout le monde, un article qui est lu par tout le monde, bah, tout le monde est un peu différent, à des étapes différentes, donc je ne sais pas trop comment commencer. Donc j'aurais besoin de faire une mise à niveau pour que chacun commence au même endroit. Alors j'essaye de faire quelque chose, j'espère que je n'ai pas ennuyé trop ceux qui... ont pas trop envie de s'intéresser à ça, qui sont déjà à des étapes suivantes, qui auraient déjà compris. Donc, si jamais il suffit d'avancer un petit coup, mais là, je suis obligé de faire une remise à niveau quand même. Donc, je me dis que statistiquement, la majorité des visiteurs qui passeront par ici, ils vont comprendre les étapes jusqu'à la verte. C'est parce que jusqu'à la verte, on est vraiment dedans. C'est l'étape de la conscience humanitaire. Donc, au moins comprendre, même si on n'y est pas. Et puis, toutes les ONG qui font des demandes de dons, elles expliquent tout le temps leur boulot, et je pense qu'il y a suffisamment de monde qui nous harcèle avec ça pour comprendre ces valeurs. Et donc, je vais pas les réexpliquer jusqu'ici. Mais j'ai quand même envie de réexpliquer la suite. Réexpliquer depuis le moment où j'étais ancré à cette étape dans des valeurs plutôt égalitaires. Jusque aux étapes suivantes, un peu comment s'est passé mon passage. J'ai l'impression que si j'explique ce qui m'est arrivé, ça va être plus facile de comprendre pour une autre personne, pour comprendre comment toi tu vas pouvoir passer plus loin. Alors moi je raconte mon histoire, hein. Je dis pas que c'est ce qui va arriver à tout le monde. Et je dis que c'est ma curiosité, une ouverture d'esprit qui m'ont permis d'avancer et de lire et d'écouter des choses que j'étais peut-être pas prêt à écouter, mais tout d'un coup, ça fait sens. Puis ensuite, il faut beaucoup de temps. Ça vient pas tout seul, hein. Il m'a quand même fallu des mois pour lire plein de choses. Ici, je ne vais pas pouvoir tout expliquer d'un coup dans l'enregistrement. Dans l'article aussi, j'ai mis des liens sur toutes les lectures que j'ai faites, sur toutes les conférences que j'ai eues. Et c'est aussi à toi d'aller les voir, les écouter, lire des livres pour approfondir les points que tu n'aurais pas compris. Et c'est ça qui gentiment va transformer toute cette vision du monde. Ça peut prendre quelques années. C'est juste que là, il faut du temps pour assimiler. Je pense pas qu'on puisse changer complètement de valeur d'un coup comme ça, du jour au lendemain. Il y a déjà toute une préparation. C'est vraiment le concept de la larve, de la chenille, du papillon. C'est gentiment que ça vient et tout d'un coup, c'est oh, tout s'éclaircit dans mon esprit. C'est une révélation du jour au lendemain. Mais tout ça, ça a dû se construire. On ne peut pas sauter des étapes. La spirale dynamique, c'est jamais possible de sauter des étapes. On peut être à cheval en différentes étapes, mais on ne peut pas les sauter. Il faut assimiler tout ça. Donc déjà, il faut prendre le temps de comprendre le fonctionnement du monde. Et j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre le monde d'une manière qui se fait peut-être pas forcément par tout le monde non plus. Je me suis intéressé à toutes les crises dont on parle tout le temps, ces crises financières, crises écologiques, crises sociales. Et c'est en comprenant, en lisant plein de choses à ce propos, que gentiment j'ai compris. Et puis c'est là que je suis passé un peu d'une étape, bah, cette étape communautaire, un peu, on est tous égaux, on doit l'être, C'est bien. Ben, en comprenant un peu comment fonctionnent les choses, je suis rentré dans une étape où on comprend les systèmes qui enclenchent les mécanismes du monde et comment ça fonctionne. C'est vraiment la vision systémique. Et là, je suis entré dans l'étape jaune, l'étape de la spirale dynamique. Puis on prend conscience qu'il n'y a pas que l'égalité entre les humains, mais qu'il y a une question d'environnementale aussi qui va avec. C'est là que j'ai aussi fait des transformations dans ma vie. C'est là que tout d'un coup, je me suis mis à décider que mon vélo serait mon moyen de transport. Et c'est pleinement là-dedans que je me suis dit, ben, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'agisse. Il faut que. Pas que je fasse quelque chose pour la planète, comme c'est souvent dit, mais vraiment, je suis dans un tout et je suis une partie de ce tout. Il faut que je fasse attention et que je réduise mon empreinte écologique. Et donc, c'est là où vraiment. Ma conscience écologique s'est faite et que je me suis intéressé à beaucoup de choses, que c'est pas qu'une question de conscience, mais c'est une question d'acte aussi. C'est tout d'un coup utiliser le vélo tous les jours comme moyen de transport, parce que le vélo, c'est quand même le meilleur moyen de transport. A beaucoup, beaucoup d'avantages sur plein d'autres choses. Et exactement ce moment précis, ça a aussi transformé ma vie d'une autre manière que j'avais pas complètement vraiment imaginé. C'est que je pouvais plus lire, donc j'ai passé sur l'audio pour écouter pendant que je faisais du vélo plein de choses, chaque jour. Et c'est là que j'ai écouté beaucoup de conférences et que je suis tombé dans des domaines un peu différents de ce que je lisais auparavant. Et c'est là que j'ai vraiment adopté le principe de ne plus me documenter sur l'actualité, la presse, ce genre de choses, où c'est presque rien sur presque tout, tous les jours, et on reste en surface tout le temps. Mais tous les jours, on parle du conflit israélo-arabe, mais finalement, qu'est-ce que j'en sais de plus? Ça fait 50 ans qu'on en parle tous les jours, mais je saurais pas expliquer vraiment clairement ce qui s'y passe et pourquoi, et dans tous les sens. Alors que finalement, quand je fais 1 heure de vélo chaque matin, ben, j'ai le temps d'approfondir un sujet. Et puis au fil du temps, ben, tous les jours, ça fait quand même 300 sujets par année que j'ai pu approfondir concrètement. Et c'est ça qui a vraiment changé mon évolution du monde. Et là, je suis arrivé sur plusconscient.net, un superbe site. Et ça a été un peu la source de carburant de mon vélo. Pendant longtemps, j'ai écumé le site avec des enregistrements audio de tout et n'importe quoi, qui sont dans les grands problèmes de notre temps et la spiritualité. Et c'est là que j'ai évolué de plus en plus. C'est vraiment une vision systémique du monde. Et puis gentiment aussi vers la suite, petit à petit. Et c'est là qu'il faut comprendre qu'on a aussi une vision fractale. Un des enregistrements que j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment un enregistrement de Bruno Marion, dans une conférence où il parle de la vision fractale du monde. Pour essayer de comprendre pourquoi notre monde devient de plus en plus incompréhensible, pourquoi ton voisin de palier est culturellement plus différent de toi qu'une personne qui habite à l'autre bout du monde. Et pourquoi les cultures se mélangent, pourquoi on voit que il y a des signes qui font qu'on a l'impression de plus toujours maîtriser. Il y a plein de gens qui se sentent un peu largués dans le monde actuel, qui ont des peurs. Et quand on comprend cette vision fractale du monde, on commence à avoir de l'ordre dans le chaos, et ça fait beaucoup de bien. On a vraiment cette vision systémique qui s'installe. Et puis ensuite, en écoutant beaucoup de podcasts, je suis tombé sur une autre conférence que j'ai beaucoup aimée, une conférence de Patrick Vivray, qui est venu à Genève en décembre 2010, c'était là, qui a fait une conférence qui s'appelait Reconsidérer la richesse, et qui a mis en place pas mal d'idées qui m'ont fait travailler. J'ai réécouté cette conférence de nombreuses fois, je l'ai retranscrite, elle est complètement sur mon site web, sur martouf.ch, vous la trouvez, conférence de Patrick Vivray. Et Déjà, il expliquait qu'on peut décoloniser notre imaginaire, que on est souvent enfermé là-dedans, qu'à la pensée Tina, comme on l'explique, There is no alternative. La pensée Tina de Margaret Thatcher, qui nous disait il n'y a pas d'alternative, il faut faire comme ça, et qui a vraiment marqué les années 1980. Et puis là, on arrive au bout d'un cycle, c'est le cycle de la modernité. On doit pouvoir en sortir de ça, et puis il y a plusieurs alternatives, hein. Il y a la barbarie, alors comment en sortir par quelque chose de bien? Trouver le meilleur de l'humanité. Et puis là, il a apporté plein de techniques qui existent pour trouver le meilleur de l'humanité, y aller sans violence, confronter les différentes cultures. Après, il apportait une notion aussi de son rapport à l'énergie, savoir que on est dans une société plutôt ancrée à l'étape orange, les opportunités, tout est bon à prendre, même si c'est pas moral. On est un prédateur. Et l'énergie fossile, c'est aller chercher l'énergie en tant que prédateur. Alors qu'en fait, l'énergie, elle nous est offerte, et il faut apprendre l'accueil. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup progresser. Savoir que les énergies plutôt douces, l'énergie solaire, l'énergie éolienne, sont des énergies où on est tout à fait dans un autre rapport. On prend ce qu'on a à disposition. C'est l'arbre qui grandit et il s'adapte, sa taille, sa croissance, à l'énergie qu'il est capable d'accumuler avec le soleil. Et avec ça, il vit un rythme plus lent que nous. Il va pas se balader aux quatre coins du monde à une vitesse effrénée. Il peut vivre des centaines d'années, voire des millénaires. C'est des colonies d'arbres. Mais il vit au rythme à laquelle il peut capter l'énergie. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais très intéressant. Donc, déjà une question d'accueil, une question de savoir que notre propre manière de fonctionner en tant qu'humain, c'est le souffle. Le souffle, c'est l'énergie éolienne. On respire et on retransmet au suivant. C'est du partage aussi. Et c'est là que j'ai appris aussi que les valeurs, le terme de valeur ancrée, les valeurs signifient étymologiquement la force de vie. Dans les conférences de Patrick Vivray, il revient souvent au sens originel des mots, savoir ce qu'ils veulent dire et comment ils ont évolué au fil du temps. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple, sa conférence est intitulée Reconsidérer la richesse. Alors, richesse, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? L'étymologie du mot signifie puissance créatrice. Donc quand on est riche, c'est qu'on est fort en puissance créatrice. On est capable de créer. Donc être riche, ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'argent. Ouais. Ça veut juste dire que on a la capacité de créer dans le monde. Et puis, dans tous ces systèmes qui existent, l'économie n'est qu'un système parmi d'autres. C'est pas l'économie toute puissante, on n'est pas soumis, c'est plutôt l'économie qu'on devrait soumettre à ce qu'on veut créer, nous. Et là, il y avait des notions, on va pas se battre contre quelque chose, mais plutôt pour quelque chose, c'est créer des alternatives. Et créer des conflits, c'est bien aussi. On va le faire sans violence. C'est vraiment une notion, on n'est plus dans l'empire barbare, mais on est déjà beaucoup d'étapes plus loin. Et créer de la conflictualité, c'est bien, parce que c'est confronter différentes valeurs et voir déjà ce sur quoi on est d'accord pour pouvoir avancer et créer des alternatives. Alors, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses sur les notions de notre système économique, comment il fonctionne, l'argent, dette, pourquoi est-ce que finalement, on s'enferme dans un système alors qu'on pourrait faire tout à fait autrement. Les questions de revenus de base inconditionnels qui viennent là-dedans, on va se dire, waouh, pourquoi on s'embête à devoir trimer, à travailler pour juste pour travailler alors qu'on pourrait vivre et créer ce qu'on a envie de faire plutôt que d'être dans un système qui nous enferme. On pourrait être dans un système qui nous assure une base et qu'on puisse ensuite s'épanouir pleinement. Faire son vrai métier et pas faire un job. C'est ça la grande différence. Un métier, dans le sens étymologique, c'est une vocation. C'est quelque chose qu'on a envie de faire. C'est pas du tout un job qui est censé nous occuper. C'est pas du tout la même chose. Alors, je t'incite vivement à écouter cette conférence, Patrick Vivray. J'ai tellement aimé que je suis allé à une de ses conférences 2 ans plus tard, quand il est revenu. Et c'était toujours aussi passionnant. Là, j'étais en vrai, pas seulement en podcast. Et là, Patrick Vivray, il nous apprend que tout est lié. Bah, toutes ces crises financières, sociales, environnementales, on va toujours chercher des spécialistes, mais on devrait arrêter avec les spécialistes. On devrait chercher des gens qui voient la globalité de la chose, créer du lien entre tous ces facteurs. Et une chose que j'ai bien aimée dans une conférence que j'avais écoutée à propos de l'écologie, c'est Jean-Marc Jancovici qui parlait de l'équation de Kaya. C'est une équation qui est utilisée et qui permet justement de faire le lien entre différents facteurs qui sont impliqués dans toutes ces crises. C'est dans l'écologie, on parle beaucoup de cet effet de serre qui arrive avec le CO2 qui entoure toute notre planète et qui piège le rayonnement infrarouge qui fait que la planète se réchauffe lentement et modifie son climat, ce qui a des incidences sur la vie. Et la vie, ben, c'est quelque chose à protéger quand on la voit de loin, cette petite planète. Il veut dire que si on veut pouvoir survivre, ben, il faut se préoccuper de ce CO2. Donc l'équation de Kaya, elle se dit, ben, ce CO2, on fait un choix. Puis c'est ce qu'on entend toujours parler, le réchauffement climatique, le GIEC, un groupement qui se réunit, puis qui fait des scénarios pour savoir ce qu'il faut faire, comment il faut agir pour que qu'on soit dans un monde viable pour les prochains siècles, les prochains millénaires, et pas qu'on bousille tout actuellement, maintenant, tout de suite. Alors là, cette équation, c'est celle qui permet de faire ces scénarios que le GIEC fabrique. Alors, on fait une égalité. Le CO2, c'est le CO2 émis par l'humanité. Et avec ça, on dit que c'est une équation où on introduit la population mondiale. C'est proportionnel à la population mondiale, ces émissions. Plus il y a de monde, plus ça émet de CO2. Et c'est aussi proportionnel au produit intérieur brut par habitant, pour mettre une notion financière. La croissance économique. On en veut toujours plus aussi. Donc, plus on en veut, plus il y a de CO2. Mais c'est aussi lié à l'intensité énergétique de l'économie. Alors, l'intensité énergétique de l'économie, ça veut dire quoi? C'est les questions d'efficacité énergétique. On peut avoir une machine qui a un mauvais rendement, puis une machine qui a un bon rendement, elle fera le même boulot. Donc, autant avoir une machine qui, énergétiquement, a une empreinte plus faible. Donc, ça, c'est écologie libérale, hein. C'est la promotion de l'efficacité énergétique, c'est vraiment cette pensée-là. Et puis ensuite, ben, comment on fabrique cette énergie? Le CO2, ben, il y a des sources d'énergie qui émettent du CO2 et des sources d'énergie qui n'en émettent pas. Alors c'est là que il y a des gens qui disent que le nucléaire c'est bien parce que ça émet très peu de CO2 par rapport à brûler du pétrole ou brûler du charbon. En même temps, le solaire, ça en émet encore moins. Alors, voilà. Et on fait un lien avec ça. Et ça permet, à mon avis, quand on a une équation de ce style, de tout lier et de pouvoir voir qu'il existe 1000 scénarios. Et de pouvoir voir que il y a plein de scénarios et on n'entre plus dans les croyances. On a des faits sur lesquels on peut se baser, se dire, si j'agis comme ça, ben, je dois compenser quelque part ailleurs. Donc c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai un peu intégré, et on en arrive à vraiment des scénarios qui sont intéressants. Il y a des scénarios, j'ai décrit ça, tout ça dans des articles sur mon site web, donc je vais t'envoyer aller lire tout ça, je ne vais pas tout répéter. Mais c'est vrai que si on considère qu'on aura forcément une augmentation de la population mondiale, parce que ça paraît illusoire d'aller tuer tout le monde, que réduire l'intensité énergétique de l'économie, c'est pas facile parce qu'on a déjà fait beaucoup. On peut vraiment très peu diminuer ça. que l'objectif, c'est quand même limiter les gaz à effet de serre, parce qu'il faut absolument qu'on garde une planète vivable, il ne faut pas dérégler le climat trop, parce que sinon, on n'aura vraiment plus personne. Eh ben, il reste plus grand-chose à faire dans tout ça. Et donc, c'est là que j'en arrive au point de dire que la croissance exponentielle du PIB, comme les économistes nous font croire, c'est pas possible. On ne pourra pas aller dans cette direction. C'est la façon la plus simple de changer, c'est un des facteurs qu'on maîtrise le mieux, c'est de dire changeons de système économique. La croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible. Donc là, j'ai vraiment des valeurs qui sont ancrées dans la décroissance. Et c'est vraiment cette période où je me suis passionné pour la décroissance. J'ai donné des cours à l'université populaire à propos de décroissance. Et c'est vraiment sortir de ce système qui prône la croissance infinie dans un monde fini. Donc c'est vraiment un choix de société à faire. J'ai écrit beaucoup de choses. Sur mon site web, on peut encore voir des enregistrements de Paul Ariès qui explique en quelques mots ce que c'est que les idées de la décroissance, tout ce qu'on met en avant. Toute la culture qui va avec l'idée de progrès, est-ce que ça veut vraiment, jusqu'où on va? Jacques Greenwald qui explique plein de choses à propos de la décroissance. C'est vraiment des choses passionnantes. Et en rejoignant tout ça, je me suis fait quelques maximes dans lesquelles je me suis dit que ça permettait de guider un peu ma vie à ce moment-là. Déjà garder l'esprit ouvert pour pouvoir accueillir tout ce qui peut venir. Écouter des podcasts, lire des livres, se rendre compte que tout est lié, chaque action a une implication quelque part, faut pas voir les problèmes séparés. Les spécialistes voient toujours les problèmes séparément, là il faut vraiment avoir une vision globale. Quand on agit, il faut plutôt être dans l'accueil que dans la prédation, c'est toujours mieux, plutôt que d'aller piquer chez le voisin, on peut se dire qu'on accueille ce qu'on a à disposition, et tout de suite, on change vraiment de vision du monde aussi. Et puis on peut collaborer avec les autres plutôt que les concurrencer. C'est fini la concurrence, maintenant on est dans l'ère de la collaboration. Ça apporte beaucoup plus. Et puis une maxime que j'aime bien, qui me guide beaucoup, c'est use de tout, n'abuse de rien. Savoir qu'il n'y a aucun interdit. Que tout est possible, qu'on a le droit de tout tester. Mais c'est toujours. Il y a une limite. Dès qu'on abuse, c'est mal. C'est pas une bonne chose. Alors les limites sont toujours difficiles à savoir où elles sont, mais c'est toujours quelque chose d'intéressant à savoir. Alors dans tout poison, on ingurgite des pesticides qui sont des poisons. On en ingurgite en quantité infime, du coup ça passe, puis on n'est pas trop malade, mais après, bah, peut-être qu'on développe un cancer 50 ans plus tard sans s'en rendre compte. Tout est question de quantité. Puis après, il y a une vision quand même positive de la vie, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ça, c'est quelque chose que je trouve important. Et après, c'est vraiment la notion du projet de vie. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie plutôt que la question qu'on te pose. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, alors moi, je fais un job de merde. Là-bas. Non, c'est vraiment quel est ton projet de vie? À quoi tu veux dédier ta vie? Essayez d'y réfléchir. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu as envie de faire la promotion? Qu'est-ce que tu n'as pas envie de donner de l'énergie? Et là, ça apporte quelque chose. C'est des maximes. Il y en a certaines que je suis encore, d'autres moins, mais c'est d'une manière globale quelque chose qui m'a beaucoup aidé à progresser et à avancer. Donc je les donne comme ça. Peut-être que ça te sera utile, peut-être pas. Et à partir de ça, c'est le chemin qui m'a fait que je suis entré pleinement dans cette étape jaune. Et ensuite, bah, j'ai senti des tensions. On parlait de décroissance. Ben, j'étais un peu toujours embêté. Hein. Moi, j'aime bien les ordinateurs. Je suis développeur web, ingénieur en télécom. Le monde de l'information, c'est un truc que j'adore. C'est un truc génial. Il y a des opportunités à prendre. Hein. Voilà. C'est pas très moral, mais je les prends quand même. Tu te dis que ben t'exploites les petits Chinois qui vont construire ton ordinateur. Et j'ai toujours été un peu en porte-à-faux dans ces histoires-là. La décroissance, oui, mais en même temps, de l'autre côté, J'aime bien ce monde aussi, j'ai bénéficié de toutes les étapes précédentes, donc l'accumulation matérielle aussi. Maintenant, je me dis que ça sert plus à rien d'accumuler autant d'objets. J'ai liquidé beaucoup de choses ces derniers temps. Et là, je me suis dit, ben, comment concilier tout ça? Et c'est là que j'ai découvert une nouvelle vision du monde qui m'a permis de concilier ces deux choses. Et là, j'ai des nouvelles valeurs qui se sont ancrées. Je suis passé à l'étape suivante et c'est là que je commence à mettre un pied dans l'étape turquoise. Je pense que j'y suis pas encore pleinement, mais c'est déjà l'ouverture d'esprit qui m'amène là-dedans. Et là, je tombe des nues. C'est vraiment des choses incroyables. Alors, si on change, comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde se réenchante. Et finalement, on rentre dans cette deuxième étape de la spirale, deuxième étape du deuxième tour. On retombe dans ce monde. On peut faire un lien. Donc, comment faire un lien avec cette étape animiste dans laquelle on était? L'étape animiste, c'est déjà, on va voir ben, nos ancêtres de cette époque, c'était qui? Ils vivaient comment? Puis voir quel est le lien qu'on a avec eux qui font qu'on entre dans cette seconde étape. Donc, je vais expliquer ça tout de suite. On va remonter dans le temps. On va remonter jusqu'à nos ancêtres les plus proches qui avaient cette culture animiste. Esprit de la nature. Alors, moi j'habite en Suisse romande. On arrive à l'ère pré-chrétienne. Hein. Avant les chrétiens, il y avait une culture celte. Et il se trouve que bah, dans ma région, c'était même le berceau de la civilisation de l'Athènes. Civilisation de l'Athènes, on est dans l'âge du fer. Et c'est des gens qui avaient des croyances, qui posaient des menhirs. Et puis on retombe encore dernièrement, là, il y a 10 jours, je suis allé voir un tumulus d'une tombe qui datait de cette période, aussi du bronze, aussi un peu plus ancien encore. Et puis de découvrir ben, dans cette région, il y avait des gens qui ont vécu, qui avaient d'autres valeurs. Et puis ben, ces archéologues essaient de comprendre, mais là ils essaient de comprendre d'une certaine manière. Je reviendrai tout de suite là après. Ils ont peut-être pas encore toujours tout compris d'après ce qu'on explique clairement. Et là, on peut aller beaucoup plus loin avec ma réflexion dans comment je le sens et puis de tout ce que j'ai entendu parler. Mais j'aurais très bien pu être péruvien, hein. J'aurais très bien pu habiter à l'autre bout du monde et puis me dire que j'allais. Je remonte chez mes ancêtres qui avaient une vision du monde comme ça et j'aurais besoin de me remonter beaucoup moins loin vu qu'il y a toujours des gens qui ont une vision du monde de cette étape animisme qui habite en Amazonie par exemple. Dans l'Amazonie péruvienne, on trouve encore des chamans qui ressemblent aux druides de l'Europe celtique d'il y a quelques millénaires pour nous mais qui sont toujours actuels en Amazonie. Donc là, on voit que l'évolution s'est pas faite de la même manière. Il y a d'autres étapes qui sont passées. Et c'est vrai que il y a des similitudes. Alors, c'est des cultures qui sont totalement différentes, donc je vais vraiment bien les séparer. Mais comme on est dans un monde fractal, ça vaut la peine de parler des deux. Et pour dire que ça concilie mes deux visions du monde. C'est ce que je trouve génial, c'est que les chamans en Amazonie, ils parlent parfois de l'internet de la forêt. Eux, ils ont déjà tout dans la forêt depuis des millénaires, ils ont déjà internet. Alors, là, ça réconcilie tout. Je me dis, waouh, eh ben, c'est exactement ce que j'avais besoin, c'est pouvoir réconcilier ma vision. J'ai pas besoin d'ordinateur, mais j'ai l'internet quand même. Alors, on verra ça plus tard. Je t'expliquerai tout de suite après comment ça se passe dans la vision de nos ancêtres.